Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et U Laval Nouvelle. Au programme, la nature en transport en commun. Levée de l'urgence COVID-19, nous avons le devoir d'en finir. 7 des 8 limites planétaires franchies. Et pourquoi devient-on plus distrait avec l'âge? Bonne écoute!
La nature en transport en commun, un texte de Marie Tison, paru le 31 mai 2023 dans la presse. Lorsqu'on est un nouvel arrivant et qu'on s'est installé en plein cœur de Montréal, il n'est pas nécessairement facile d'avoir accès au plein air. Il faut d'abord savoir où aller, puis trouver une façon de s'y rendre. Ça coûte cher de louer une voiture, lance Mina, une Française arrivée au pays, il y a 6 ans. Il faut planifier longtemps à l'avance. Il faut trouver des gens pour partager les coûts, en espérant qu'ils ne nous lâchent pas à la dernière minute. Il existe des organismes qui aident les nouveaux arrivants et les immigrants à avoir accès au plein air, comme le programme plein air interculturel de l'association récréative Milton Park. La petite organisation offre une variété d'activités comme le ski de fond et le patinage en hiver et la randonnée et le kayak l'été. On veut faire du plein air pour que les nouveaux arrivants et les gens d'ici puissent se rencontrer, explique Robin Montagu, coordonnateur adjoint de plein air interculturel. On veut organiser des activités au plus bas coût possible pour apporter notre petite pierre à la démocratisation du plein air, nous dit Robin Montagu. L'organisation favorise donc le recours aux transports en commun pour se déplacer vers la nature. Elle a récemment participé à une rencontre organisée par la CITIM, clé pour l'intégration au travail des immigrants, pour offrir des trucs aux nouveaux arrivants qui voudraient accéder à la nature sans voiture. On peut louer une voiture, bien sûr, ou avoir recours à Communauto, indique Robin Montagu. On peut également faire des recherches sur Facebook pour trouver des groupes passionnés de randonnée, de vélo, de kayak et d'autres activités de plein air. Et il y a les transports en commun. Déjà, le réseau de métro et d'autobus de la Société de transport de Montréal, STM, permet d'accéder aux grands parcs de la métropole, comme ceux du Mont-Royal, Jean-Drapeau et de l'île de la Visitation. Mais il faut oser sortir de l'île et regarder du côté d'autres réseaux. Ainsi, la Société de transport de Laval, STL, donne notamment accès au parc de la rivière des Mille-Îles. Pour sa part, le réseau de transport de Longueuil, RTL, offre des navettes les fins de semaine vers le parc national du Mont-Saint-Bruno. EXO donne accès aux différentes sociétés de transport qui desservent les couronnes nord et sud. Cela inclut les trains de banlieue qui peuvent mener à de belles destinations. Il faut évidemment bien étudier les horaires parce qu'ils sont moins fréquents les fins de semaine. Des applications comme Transit et City Mappers peuvent permettre de créer ses propres itinéraires sans avoir à éplucher les sites Internet des différents réseaux de transport en commun. Il y a d'autres ressources plus surprenantes, mais particulièrement intéressantes, comme les navettes fluviales, Navarc. Plusieurs liaisons ont été mises sur la glace pendant la pandémie, mais la plupart seront de retour cet été. Déjà, en partant sur une navette, ça fait une coupure, note Robin Montagu. Effectivement, on a un petit sentiment de vacances, dès qu'on met le pied sur la navette qui nous transporte vers le parc des îles de Boucherville. Nana à la rescousse. Il y a quand même des destinations qui sont moins accessibles en transport en commun, même dans l'île de Montréal. Pour accéder au parc de Cap-Saint-Jacques, dans l'ouest de l'île, il faut supporter un trajet en métro et deux trajets en autobus. C'est ici que Nana entre en scène. Nana, c'est Navette Nature qui offre du transport vers de grands parcs, Mont-Tremblant, Mont-Mégantic, Yamaska, Mont-Ham, Mont-Harford, etc. Grâce à un partenariat avec la Ville de Montréal, Navette Nature offre un certain nombre de sorties gratuites vers trois grands parcs montréalais, soit le fameux Cap-Saint-Jacques, Bois de Liesse et Pointe-aux-Prairies. Ces destinations se remplissent cependant rapidement. Il faut suivre de près les annonces de Navette Nature sur son site Internet et sur sa page Facebook. Le vélo, finalement, est une bonne façon de rejoindre de beaux parcs. On peut prendre un bixi ou se trouver une belle monture usagée chez Vélo Urbain, notamment. Robin Montagu note que certains immigrants, et notamment des femmes, n'ont pas eu la chance d'apprendre à faire du vélo. Plein air interculturel offre justement des sorties faciles pour leur permettre d'apprivoiser ce mode de transport. C'était « La nature en transport en commun », un texte de Marie Tison, paru le 31 mai 2023 dans la presse.
Levée de l'urgence COVID-19. Nous avons le devoir d'en finir. Un texte de Joanne Liu, paru le 6 mai 2023 dans la presse. Dr. Joanne Liu est professeure à l'École de santé des populations et de santé mondiale, membre du panel indépendant sur la COVID-19 de l'OMS et ancienne présidente de Médecins sans frontières. Le verdict est tombé. À la suite de la 15e réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international et sous la recommandation de ses membres, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a levé le statut d'urgence de santé publique de portée internationale, USPPI, sur la COVID-19. Ce moment était attendu avec appréhension par certains et avec un grand soulagement par d'autres qui auront enfin le sentiment d'avoir la bénédiction de passer à autre chose. Pour rappel, la définition d'une USPPI implique que la situation est grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, qu'elle a des implications pour la santé publique dépassant les frontières nationales de l'État affecté et qu'elle pourrait nécessiter une action internationale immédiate. L'exemple de l'Ebola. Une déclaration d'USPPI ne connaît pas de nuance. Elle est une urgence de portée internationale ou elle n'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. L'exemple d'Ebola nous permet de bien comprendre. Le 8 août 2014, après plusieurs mois de lobbying, l'OMS a déclaré l'Ebola d'urgence de santé publique de portée internationale. Et à sa révocation le 29 mars 2016, il y avait toujours de nouvelles chaînes de transmission, mais de fréquence décroissante. Le comité considérait que la transmission du virus Ebola en Afrique de l'Ouest ne constitue plus un événement extraordinaire. Sur le terrain, je me rappelle que les équipes de Médecins sans frontières, MSF, traitaient encore quelques personnes infectées et faisaient surtout des suivis de contact avec grande diligence. Tous étaient obsédés d'en arriver au patient zéro, d'en finir avec Ebola. La levée d'une USPPI signifie que la phase d'urgence aiguë est terminée, mais pas la COVID-19. Nous rentrons dans une séquence de post-urgence immédiate où il y aura malheureusement encore des impacts tragiques de la COVID-19 par ses infections, ses hospitalisations, ses décès, ses symptômes résiduels de long terme, mais probablement en moindre nombre et, osons l'espérer, de façon décroissante sur la durée. Par ailleurs, dans le camp des appréhensions, la crainte est que nous baissions les bras complètement sur les efforts déployés pour la maîtrise de la COVID-19 et de ses répercussions. Le virus demeure en circulation. Il continue d'évoluer et peut provoquer d'autres vagues. C'est pour cette raison qu'il faut continuer de le suivre de près et d'être prêt à s'adapter. Encore une fois, ce n'est pas fini. Dans le camp des soulagés, je soutiens le passage à une autre phase COVID-19, mais mon souhait est de résister à la tentation de passer à l'amnésie collective totale. Des leçons à retenir. Je nous exhorte à faire le point, un état des lieux sur notre réponse à la pandémie pour déterminer les meilleures pratiques et celles à mettre de côté. Car aucun de nous ne veut remettre sa vie professionnelle ou personnelle en pause pour de longs mois d'affilée, essuyer collectivement une contraction économique ou de ne pas pouvoir accompagner ses proches en fin de vie. Il faut finir la job en apprenant. Nous ne devons pas commettre la double faute de ne pas avoir été prêts et de n'avoir rien retenu. À l'échelle mondiale, nous avons devant nous des occasions clés dans les prochains mois avec la révision du règlement sanitaire international en mai 2024, la négociation d'un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies souvent référées au traité pandémique au printemps 2024, la déclaration politique sur la prévention, préparation et réponse aux pandémies à l'Assemblée annuelle des Nations unies en septembre 2023. Ces différents mécanismes internationaux doivent reconnaître haut et fort dans la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies trois principes de base, soit la primauté des droits humains, la nécessité de l'équité dans l'accès aux contre-mesures, vaccins, traitements, tests, l'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Le Canada se doit d'être le porte-voix de ces principes. C'est à ce prix seulement qu'on aura une chance de faire mieux collectivement la prochaine fois. C'était « Levée de l'urgence COVID-19. Nous avons le devoir d'en finir ». Un texte de Joanne Liu, paru le 6 mai 2023 dans la presse.
Sept des huit limites planétaires franchies. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 1er juin 2023 dans La Presse. Des changements systémiques à l'échelle mondiale sont nécessaires afin de respecter les principales limites planétaires favorables à la survie de l'espèce humaine. C'est le plaidoyer d'une quarantaine de scientifiques qui signent une étude parue mercredi dans la revue Nature. Assurer la stabilité du système terrestre. Sept limites ont déjà été dépassées en raison des systèmes sociaux et économiques fondés sur l'extraction et la consommation de ressources non durables. L'étude intitulée « Des frontières sûres et justes pour le système terrestre » Safe and Just Heart System Boundaries, détermine 8 limites planétaires qui permettent d'assurer la stabilité et la résilience du système terrestre. Une quarantaine de scientifiques affirment que des transformations systémiques dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'urbanisme sont requises afin de rétablir l'équilibre du système terrestre. Des limites affectées par les activités humaines. Le climat, des écosystèmes intacts, des écosystèmes fonctionnels dans les zones d'activité humaine, l'eau potable de surface, les sources d'eau souterraines, les niveaux d'azote et de phosphore dans l'environnement, ainsi que les polluants atmosphériques, sont les 8 éléments ciblés par les limites déterminées par les chercheurs. Ces limites couvrent les principales composantes du système terrestre et ses processus interdépendants, dont les cycles du carbone, de l'eau et des nutriments. Elles sont menacées par les activités humaines et pourraient affecter l'avenir du système terrestre. 7 limites ont déjà été excédées. Bien que les polluants atmosphériques dépassent la norme établie dans certaines régions du monde, cette limite est la seule qui n'a pas encore été franchie à l'échelle planétaire. La limite climatique déjà dépassée. Selon l'étude, la limite climatique a déjà été dépassée. Les scientifiques ont déterminé qu'un réchauffement de 1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle représentait le seuil jugé sécuritaire et équitable à l'échelle planétaire. Or, la planète s'est déjà réchauffée de 1,2 degré Celsius et les experts estiment que la cible de 1,5 degré Celsius sera pratiquement impossible à respecter à moins de réduction draconienne des émissions de gaz à effet de serre, GES, d'ici 2030. Dans certaines régions du monde, un réchauffement de 1,2 degré Celsius entraîne déjà des conséquences dramatiques. Une base scientifique solide. Cette étude a été dirigée par Johan Rockström, directeur de l'Institut de recherche Potsdam sur les effets du changement climatique, Joyita Gupta, professeur à l'Université d'Amsterdam, et Dai Quyen, directeur du comité académique de l'Académie chinoise des sciences. Nous sommes dans l'Anthropocène, ce qui met en péril la stabilité et la résilience de la planète entière. Pour la première fois, nous présentons des chiffres quantifiables et une base scientifique solide pour évaluer l'état de santé de notre planète, non seulement en termes de stabilité et de résilience du système terrestre, mais aussi en termes de bien-être humain et d'équité et de justice, a déclaré Johan Rockström. Biodiversité, eau potable et nutriments. En matière de biodiversité, l'étude fixe 2 limites essentielles. Maintenir au moins de 50 à 60% d'écosystèmes intacts sur la planète et un minimum de 20 à 25% d'écosystèmes fonctionnels pour chaque kilomètre carré dans les zones habitées. Ce dernier seuil permet notamment de maintenir des services écosystémiques essentiels pour les humains. En raison de l'agriculture intensive, les niveaux de phosphore et d'azote dans l'environnement dépassent les seuils recommandés par les scientifiques. Les eaux de surface et les eaux souterraines constituent deux autres limites importantes qui ont malheureusement été dépassées. De dangereux points de bascule. En 2022, une étude parue dans la revue Science concluait que la planète s'approchait de 5 points de bascule sur le front climatique. « Nos résultats sont assez préoccupants », signale Johan Rockström. Dans les 5 domaines analysés, plusieurs frontières à l'échelle mondiale et locale sont déjà transgressées. Cela signifie qu'à moins d'une transformation rapide, il est très probable que des points de bascule irréversibles et des impacts étendus sur le bien-être humain soient inévitables. C'était « 7 des 8 limites planétaires franchies », un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 1er juin 2023 dans La Presse. Pourquoi devient-on plus distrait avec l'âge? Un texte de Jeanne Hamann, paru le 11 mai 2023 dans U Laval Nouvelle. Des chercheurs explorent les composantes comportementales et neuronales de la propension à la distraction dans l'espoir de concevoir une intervention pouvant en ralentir la progression. La propension à la distraction qui se manifeste avec l'âge serait inévitable, mais il serait possible d'en ralentir la progression, estiment des chercheurs du Centre de recherche CERVO Cerveau de l'Université Laval. Pour y arriver, il faut d'abord déterminer avec plus de précision quels mécanismes de l'attention subissent les outrages du temps et quels réseaux neuronaux sont impliqués dans ce phénomène. La post-doctorante Roxane Hoyer et le professeur Philippe Albouy de l'École de psychologie ont profité du 90e congrès de l'ACFAS pour présenter leurs avancées sur ces questions. La propension à la distraction est le résultat d'une confrontation entre l'attention volontaire, celle que l'on accorde à la tâche à accomplir, et l'attention involontaire, celle que l'on accorde malgré nous à des éléments qui nous en distraient, rappelle Roxane Hoyer. En soi, ce n'est pas forcément mauvais. Par exemple, c'est une bonne chose d'entendre résonner l'alarme de feu, même si vous êtes très concentré sur votre travail. Des enquêtes ont montré que la plupart des personnes âgées ne considèrent pas la propension à la distraction comme un problème grave, poursuit-elle. Plusieurs en atténuent les effets négatifs en ayant recours à des stratégies simples pour compenser le déclin de l'attention. Par exemple, l'utilisation d'un minuteur pour se rappeler qu'on a mis quelque chose au four. Pour d'autres personnes, toutefois, le problème est plus sérieux. Pour l'instant, il n'existe pas de solution efficace et durable pour elles. Les études antérieures, qui ont porté sur la propension à la distraction, sont arrivées à des conclusions parfois divergentes. Le regroupement des participants par tranche d'âge très large pourrait être en cause, avance la post-doctorante. Le résultat est qu'on ne savait pas vraiment comment les composantes de la propension à la distraction évoluaient avec l'âge. Pour y voir plus clair, Roxane Hoyer et l'équipe d'Aurélie Bidet-Collet de l'Université de Lyon ont soumis 191 sujets âgés de 21 à 86 ans, répartis en 7 groupes d'âge, à un test comportemental mesurant 5 composantes de la propension à la distraction. Leurs analyses indiquent que chaque composante a sa propre trajectoire dans le temps. Par exemple, l'impulsivité est plus faible chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes. L'attention volontaire diminue après 30 ans et l'attention involontaire augmente à partir de 26 ans. Le vieillissement mène progressivement les personnes à prêter une attention particulière aux informations non pertinentes, résume la post-doctorante. Il y aurait peut-être moyen de contrer ces changements en stimulant les réseaux neuronaux impliqués dans l'attention, suggèrent des travaux que Philippe Albouy a réalisés sur une autre fonction cognitive qui décline avec l'âge, la mémoire de travail. Grâce à une stimulation magnétique transcrânienne rythmique, SMT, appliquée sur des réseaux neuronaux impliqués dans la mémoire de travail, nous sommes parvenus à améliorer la mémoire de travail de sujets jeunes. Les effets de cette neuromodulation se manifestent lors de l'application de la SMT et pendant les jours qui suivent. Nous menons des tests pour déterminer si ces acquis se maintiennent à plus long terme et s'ils peuvent être observés chez les sujets âgés. Le professeur Albouy et la post-doctorante Roxane Hoyer entreprendront d'ici quelques mois une étude visant à déterminer s'il est possible de produire des améliorations de la sorte du côté de l'attention. Le projet consiste à recruter 40 sujets, autant de jeunes que de personnes âgées, à déterminer pour chacun la position anatomique exacte et l'activité fonctionnelle de réseaux neuronaux impliqués dans la propension à la distraction et à mesurer l'effet de la SMT sur les performances des participants lors d'un test comportemental sollicitant l'attention. Si les résultats sont concluants, les chercheurs tenteront ensuite de trouver des exercices cognitifs simples qui stimulent les mêmes réseaux neuronaux que la SMT. Dans le cas de la mémoire de travail, ces exercices consistent à visualiser des formes tridimensionnelles qui pivotent dans l'espace. Nous espérons en arriver à développer une application qui pourrait être utilisée sur une tablette par les personnes pour qui la propension à la distraction nuit à la qualité de vie, conclut le professeur Alboui. C'était « Pourquoi devient-on plus distrait avec l'âge ?» un texte de Jan Amann, paru le 11 mai 2023 dans U Laval Nouvelle.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visévoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.